Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Marine Digabel.
Bonjour. À l'heure de la mondialisation, difficile pour les États de légiférer chacun dans son coin. Car l'Europe, la pollution, l'éthique et Internet sont autant de domaines qui ne connaissent pas de frontières. Le droit comparé est une discipline essentielle pour la construction d'un édifice législatif commun. Il permet une meilleure compréhension des systèmes juridiques par leur comparaison et par l'appréhension de leurs fondements historiques, économiques et culturels. Loin de se limiter à la comparaison des systèmes juridiques nationaux, le droit comparé étudie aussi les différentes branches du droit dans un même pays. Et avec l'internationalisation croissante, il s'intéresse également à la comparaison des ordres juridiques nationaux et internationaux. L'Académie internationale de droit comparé réunit 70 membres experts de ces questions dans plus de 50 pays. Tous les grands systèmes juridiques du monde y sont représentés. Tous les 4 ans, un congrès est l'occasion d'aborder les perspectives du droit comparé dans les domaines correspondant aux différentes disciplines du droit. Du 16 au 22 juillet 2006, pas moins de 35 sujets ont été présentés lors du 17e congrès de cette académie. Pour nous présenter les contributions les plus marquantes de ce congrès et son histoire, nous accueillons Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et secrétaire général de l'Académie internationale de droit comparé. Roland Drago, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors je propose de commencer par revenir sur l'histoire de cette académie, pas comme les autres. Quand a-t-elle été créée ?
Voilà, alors je peux vous en parler bien entendu parce que je la connais bien, en tout cas par les documents, je n'ai pas connu les origines bien entendu. Vous savez, ce problème du droit comparé a une signification très importante parce que elle permet d'améliorer les législations réciproques de tous les pays. À une certaine époque, si on veut remonter à l'Antiquité ou même au Moyen-Âge, au fond, le droit avait une certaine unité, en tout cas dans une grande partie de l'Europe, par exemple, et une grande partie du monde. Et puis, les droits se sont diversifiés à partir du XVIIIe siècle, et à ce moment-là, ils ont apparu avec des différences très profondes, tenant à l'origine des pays, tenant à la situation économique de ces pays. Et on a le droit comparé tel que nous le pratiquons actuellement, tel que nous le connaissons actuellement, il n'est vraiment apparu qu'au milieu du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avec des écoles dans divers pays et avec une opposition marquée et qui supposait la comparaison et pas du tout le rejet entre les systèmes latino-européens concernant pratiquement tout le continent, et puis les systèmes de common law des pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni principalement, et puis après les États-Unis, ont eu un système juridique très différent, fondé sur à la fois sur les origines historiques, sur les réactions populaires, et par conséquent, c'est d'abord situé dans ce cadre, mais après, ensuite, on est descendu d'un degré, et on s'est mis à comparer par pays, le droit tel qu'il existait à l'époque considéré parce que, évidemment, pour des raisons très locales, très spéciales, très nationales, le droit avait évolué dans des sens différents. C'est très curieux de voir que le droit a été quasiment uniforme à une certaine époque lointaine, très lointaine de l'humanité et qu'aujourd'hui, par le moyen du droit comparé, il aboutit à une unification, à une parenté qui est rétablie entre les systèmes, même avec les systèmes de common law, qui ont toujours gardé leur particularisme et qui l'ont encore.
D'accord. Quelles sont les grandes différences entre les systèmes de common law et les systèmes latino-européens, en quelques mots, pour donner une idée ?
La différence principale est que le droit de la common law a longtemps été, maintenant ça l'est beaucoup moins, un droit d'origine purement jurisprudentielle créé par les juges et qui, par la répétition, stare decisis, comme on dit en latin, mais dans les pays de common law pourtant, et qui par la répétition aboutit à créer une sorte de règle qui est détenue par les tribunaux, qui ne peuvent pratiquement pas s'en détacher sans qu'il y ait tellement de droits écrits. Alors évidemment c'est une vision très simpliste, mais il n'empêche qu'on est encore dans cette vision, même si justement en matière européenne, puisque le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne, est en train de s'assouplir malgré tout par rapport à cette origine. Et les causes sont des causes historiques qui sont liées à la bataille de Hastings et au changement de gouvernement dans le Royaume-Uni à partir du XIe siècle de notre ère.
En juillet a eu lieu le 17e congrès de l'Académie internationale de droit comparé. Quand ont commencé ces congrès et comment est-ce qu'on y travaille ?
Alors vous avez raison justement, c'est que, là il faut remonter un peu dans l'histoire, à la fois pour le lieu et pour l'objectif. Le droit comparé dont je parlais de la naissance il y a quelques instants est apparu à la fin du 19e siècle et à partir de ce moment, des sociétés savantes ont été créées dans tous les pays et en France notamment a été créée en 1869 une société qui existe toujours, une association qui s'appelle la Société de législation comparée dont j'ai été le président à certaines époques et qui justement considérait que le droit comparé était un facteur essentiel de progrès, de développement des sociétés. Et à partir de ce moment, ces sociétés se sont fédérées en quelque sorte entre elles. Elles ont tenu en 1900 à Paris un congrès qui a lancé des opérations beaucoup plus générales et qui est resté très célèbre. Et puis, ceci se liait à la politique qui était menée à l'époque et vous savez notamment ces deux propositions qu'avait faites le tsar russe à l'époque en ce qui concerne les relations entre les États pour éviter la guerre. Dieu sait si, évidemment, ça n'a pas abouti à des résultats positifs, mais les deux conventions de la Haye de cette époque ont été quand même des conventions très importantes relatives aux relations entre les États et qui a débouché également sur des problèmes de comparaison. D'où la naissance, à partir de la fin de la guerre de 1914-18, la naissance de la Société des Nations, la naissance de la Cour internationale de justice, tout ça, la Cour internationale de justice à La Haye, et finalement, les juristes de cette Cour ont dû penser que, et notamment aux Pays-Bas, puisque la Cour était à La Haye, il fallait aussi penser à une sorte de fédération des organismes faisant du droit comparé, d'où la création en 1924 de l'Académie internationale de droit comparé. On vient de faire à son sujet, un professeur américain a fait un travail de recherche très important, cette académie, c'est-à-dire une organisation de type associatif, mais qui est fondée non pas sur la nationalité, mais sur la compétence. Cette académie a été fondée à Genève au départ, non pas à La Haye. Elle a été fondée à Genève, elle a tenu deux congrès avant la guerre de 1939, qui ont eu lieu à Genève aussi, et puis finalement elle a eu son siège à La Haye, en se rapprochant de la Cour internationale de justice, qui se trouve également à La Haye, puisque ça portait sur des problèmes juridiques. Donc cette académie date de 1924. Je répète qu'avant 1939, surtout avant 1945, elle a eu une activité relativement réduite, avec un côté probablement, je ne le connais pas, un petit peu élitiste. Et puis à partir d'une certaine période qui remonte aux années 50, elle a relancé des congrès en fixant cette règle dans ses statuts de tenir un congrès international tous les 4 ans. C'est ce qui s'est passé et le congrès d'Utrecht est donc le 17e. Le précédent avait eu lieu à Brisbane en Australie et ainsi de suite et puis dans chaque pays.
Alors, vous avez dit que l'Académie était fondée sur la compétence et non pas sur la nationalité. Comment fait-on pour y entrer ?
Voilà, vous avez raison de poser cette question. Je dis qu'elle est fondée sur la compétence parce que les académies sont fondées sur la compétence, c'est leur tradition depuis la Grèce. Et par conséquent, le problème de la nationalité n'importait pas, mais il était malgré tout pris en deuxième position dans la mesure où évidemment on ne pouvait pas imaginer que pour des motifs peut-être tenant à l'orgueil, les gens d'un seul pays ou de quelques pays seulement en feraient partie. Au départ, il y avait, je crois, au départ, dans la première composition, après la création en 1924, il y avait, je pense, 30 membres, après 50, et moi, j'ai fait porter le nombre à 70 il y a 3 ans ou 4 ans, pour que, véritablement, le caractère universel apparaisse. Et ça veut dire, en effet, que les comparatistes, les spécialistes du droit comparé, qui sont généralement des universitaires, mais aussi des magistrats, des avocats ou des hommes d'affaires, puissent être représentés dans tous les pays du monde. À l'heure actuelle, il y a, à ma connaissance, une quarantaine de pays qui sont représentés dans l'Académie, je veux dire qui ont des représentants qui sont académiciens, qui sont des juristes, et qui appartiennent à ces 40 pays. Tous les pays du monde sont représentés. Il y a une grande représentation de l'Europe, c'est inévitable. Il y a une grande représentation de l'Amérique également, c'est inévitable aussi. Non seulement, bien entendu, de l'Amérique du Nord, canadien, américain et australien, mais aussi de l'Amérique du Sud, car l'Amérique du Sud a évidemment un système juridique qui est largement inspiré des systèmes européens, parce qu'il est à base européenne et inspiré du droit français, certes, mais surtout principalement du droit espagnol. Et par conséquent, il y a une forte représentation de ces deux continents. Pour ce qui est de l'Asie, la situation est peut-être un petit peu différente, dans la mesure où, quand l'Académie a été créée, les représentants de l'Asie pouvaient être peu importants, mais il n'empêche qu'à l'heure actuelle, la représentation asiatique est importante, la représentation aussi bien des pays du Moyen-Orient, Liban, Syrie, Turquie, est très, très importante, même situation pour la Corée et surtout le Japon. La situation de la Chine, pour des raisons politiques que vous imaginez, a été à certains moments assez ralentie, mais pour le moment, il y a des juristes chinois qui sont entrés dans l'Académie comme c'était la règle. En fait, parce que je laisse de côté le cinquième continent, l'Australie a d'excellents juristes et tous les pays de cette zone sont représentés. Et le problème concerne l'Afrique. Il est certain que, en ce qui concerne l'Afrique, pour des raisons circonstancielles, l'Afrique est beaucoup moins représentée. Bien entendu, il y a des juristes égyptiens, il y a des juristes d'Afrique du Nord, mais en nombre très réduit, et même situation pour ce qui est de l'Afrique centrale ou l'Afrique du Sud. Autrement dit, l'Afrique se trouve peu représentée. On peut dire, si on a une vision aristocratique, que c'est parce qu'elle a peu de juristes ou de juristes de qualité, mais ça n'est pas la réponse, c'est un problème de circonstance qu'il faudra un jour ou l'autre combler.
D'accord, j'imagine que ces juristes sont pour la plupart polyglottes.
Alors, je dois dire que c'est une condition qui est sine qua non. Pour être un comparatiste, il faut évidemment connaître, au moins si on est français, connaître l'anglais, mais évidemment, il y a eu dans le passé et des juristes célèbres en France qui étaient en effet des polyglottes, qui étaient des spécialistes et de l'italien et de l'allemand et de l'anglais, bien entendu. Et par conséquent, en effet, la connaissance des langues étrangères est essentielle. Il est possible qu'à une certaine époque, les juristes comparatistes n'aient pas été nécessairement des connaisseurs de la langue simplement parce qu'on ne le sait pas, après tout. Je prends un exemple, il y a un juriste très célèbre pour lequel j'ai une grande admiration, qui a été professeur à la Faculté de droit de Paris et membre de l'Académie des sciences morales au début du siècle, qui était Adhémar Esmein, E-S-M-E-I-N. Esmein a écrit un livre de droit constitutionnel où il analyse la pratique constitutionnelle des États-Unis comparée à celle de la France d'une façon merveilleuse. Je ne sais pas s'il savait l'anglais, après tout, mais ça ne l'a pas empêché d'effectuer un travail très complet. Il n'empêche que, effectivement, aujourd'hui, au moins la connaissance de l'anglais est absolument indispensable pour les comparatistes, et c'est le cas pour la quasi-totalité des comparatistes français. Et puis, évidemment, d'autres, pour des raisons diverses, connaissent en même temps et aussi ou l'allemand, ou l'italien, ou l'espagnol. Et par conséquent, la connaissance de base, vous avez raison, elle implique cette connaissance de la langue, c'est vrai, c'est vrai.
D'accord. Mais connaître l'anglais, est-ce que c'est suffisant si on veut étudier des textes russes ou japonais? Est-ce que les traductions sont satisfaisantes?
Vous avez raison de poser cette question pour deux langues qui sont évidemment moins répandues que les autres. Et il y a eu, à certaines époques, notamment à l'époque communiste, des difficultés à comparer le droit russe, le droit de l'Union soviétique et aux autres droits. Non seulement des problèmes de langue, mais c'est que le droit de l'Union soviétique était une parodie en quelque sorte et que par conséquent, on ne pouvait pas en tirer grand-chose. Il m'est arrivé d'aller très souvent dans des réunions bilatérales ou multilatérales en Union soviétique et de me rendre compte que le droit pour eux était plus un élément de propagande qu'un élément de solution des litiges. et que par conséquent, la connaissance du droit soviétique était plus une connaissance de caractère sociologique, une connaissance de caractère juridique. Quelle est l'autre langue à laquelle vous... Ah, le japonais. Alors, les universités japonaises, beaucoup d'entre elles ont été créées, bien sûr, à l'époque ancienne, mais surtout, elles ont été réorganisées à l'époque Meiji. Mais après l'époque Meiji, il y a eu une influence très caractéristique des professeurs d'université américains au Japon. Peut-être pour des raisons religieuses ou autres, en tout cas, il n'empêche que beaucoup d'universités américaines ont subi dès cette époque, ont reçu dès cette époque une influence des États-Unis, bien avant la guerre de 1939-45 et les autres relations qui sont nées à cette époque. Et par conséquent, ça a conduit les Japonais, d'abord, à bien connaître le français aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de juristes français qui sont allés au Japon, puis ensuite l'anglais, où les fondateurs d'universités japonaises ont souvent été des Américains et qui laissaient un souvenir de très bonne aloi. C'est vrai que pour le Japon et pour la Russie, la situation est très différente. Mais évidemment, il faut correspondre aux périodes. Pour le Japon, le problème juridique ne se pose vraiment qu'après l'époque du Meiji, c'est-à-dire 1867, et qu'après, les universitaires japonais ont souvent été étudiants en France ou aux États-Unis. Même remarque pour les Russes, à cette époque, le français était une langue qui était la langue diplomatique, et par conséquent, la connaissance du droit russe à l'époque tsariste, parce que je ne reviens pas sur ce que j'ai dit à propos du système communiste, à l'époque tsariste, la connaissance du français était largement suffisante. Et en tout cas, il y avait des juristes français qui connaissaient le russe aussi. Mais évidemment, à cette époque, la situation était très différente pour les raisons que je viens de dire. Le français était peut-être une langue assez universelle, sauf peut-être à côté de l'anglais. Mais l'anglais occupait une place moins importante qu'aujourd'hui.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de notre émission.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous retrouvons Roland Drago, le secrétaire général de l'Académie internationale du droit comparé. Alors j'imagine que les débats lors de ce 17e congrès ont été riches. Y a-t-il un sujet en particulier que vous aimeriez évoquer ?
Oui, vous avez raison, les débats ont été riches. On a choisi 35 sujets. La tradition à propos de ces congrès est que 2 ans avant, c'est-à-dire pour cette fois-ci en 2004, nous avons tenu une réunion à Paris, au siège de la Société de législation comparée, qui est aussi le siège d'ailleurs de l'Académie, parce que l'Académie a son siège à Paris, même si elle a un statut néerlandais. Je peux revenir d'ailleurs tout à l'heure sur cette question du statut néerlandais. Nous avons tenu donc une réunion des spécialistes, une vingtaine à peu près, à Paris, en 2004. C'est généralement ce qui se fait. 2 ans avant le congrès, dans lequel on choisit et les sujets, en tenant compte de l'actualité, et la réunion est une vingtaine de personnes qui représentent beaucoup de pays et beaucoup de systèmes, de toute façon, et les sujets et les rapporteurs généraux. Les rapporteurs généraux sont ceux qui feront la synthèse des rapports nationaux qui sont ensuite déposés dans chaque pays, parce que l'Académie comporte un certain nombre de subdivisions qui sont les suivantes. Elle a une subdivision majeure qui est par système juridique. Il y a le système, évidemment, latino-européen, qui est le système de l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud. Il y a, en second lieu, le droit de l'Europe centrale, qui est dominé, évidemment, par les principes du droit germanique, dans la mesure où, quand même, ces deux droits se ressemblent. Il y a, évidemment, un troisième groupe qui comprend les pays de common law. À ce moment-là, ça représente évidemment non seulement le Royaume-Uni, mais bien sûr les États-Unis, et aussi tous les États démembrés du Royaume-Uni, c'est-à-dire aussi bien le Canada que l'Inde ou le Pakistan, qui sont des États qui pratiquent ce que j'ai appelé la common law. Et puis après, il y a deux groupes qui sont moins importants, qui sont le groupe du Moyen-Orient, qui comprend aussi bien le Liban, la Syrie et l'Égypte, et puis le groupe de l'Extrême-Orient, dont vous voyez bien la composition. Voilà le premier groupe. Et le second groupe, c'est par État. Dans chaque État, et ça, ça dépend des spécialistes et notamment des universitaires de ces États, il y a une association nationale, un groupe national de l'Académie de droit comparé. Il y en a un en France, il y en a un en Allemagne, il y en a donc une quarantaine, comme vous l'avez vu. Et ce sont des représentants à la fois de ces tendances générales et de ces pays qui sont venus donc à Paris en 2004. Et avec une vingtaine de représentants, on a fixé les 35 sujets du congrès d'Utrecht qui étaient prévus dès cette époque, après une proposition très, très bien accueillie par moi, en tout cas, de la tenue de cette réunion aux Pays-Bas, puisque l'Académie a le statut d'association des Pays-Bas et avec un statut qui nous oblige à payer une somme extrêmement modeste par an à la Chambre de commerce de La Haye. Et, mais c'est donc un statut néerlandais. Pour le reste, c'est un statut qui est tout à fait cohérent et qui correspond aux caractéristiques que j'ai déjà indiquées. Et à ce moment-là, on a donc fixé en 2004 ces 35 sujets. Quelquefois, il y a des changements, il y a eu quelques petits changements en cours de route. 35 rapporteurs généraux. Et puis alors, dans chaque État, ou groupe d'États, tout dépend, on désigne les rapporteurs nationaux. Il y a eu un rapporteur français pour la plupart des sujets, un rapporteur allemand pour la plupart des sujets. Dans d'autres pays, comme la Pologne ou la Russie, il n'y a pas de rapporteurs nationaux pour tous les sujets. Tout dépend aussi des caractéristiques propres au système juridique de chaque pays.
Parmi ces sujets, est-ce que l'un a particulièrement retenu votre attention pour la qualité des contributions ou l'importance actuelle, je dirais, de la problématique
Alors,
abordée?
Les rapporteurs généraux ont été choisis à cette époque. On donne une priorité dans ce cas-là, ce qui est normal, aux organisateurs de la rencontre. Et par conséquent, il y a eu un nombre important de rapporteurs néerlandais, ce qui était la logique des choses. Mais en même temps, il y a des rapporteurs généraux de tous les autres pays. Si on tient compte de la moyenne, il y a eu à propos de chaque sujet, mais bien sûr c'est très variable compte tenu et du sujet, de son importance et de son traitement dans les pays, entre 15 et 20 rapports qui se chevauchent quelquefois, etc., qui sont faits par des nationaux de ces pays. Et alors le rôle du rapporteur général est justement de faire la synthèse après débat public, et nous publions chaque fois un volume qui a à peu près 1000 pages, et qui correspond aux rapports généraux et aux rapports nationaux, mais principalement aux rapports généraux. En outre, nous publions des ouvrages spécialisés sur les thèmes, et on va revenir, comme vous l'avez demandé, sur les thèmes qui ont été traités, et par conséquent, ça fait quand même à la fois une rencontre internationale avec tous les effets scientifiques et humains qu'elle peut avoir, et en même temps une publication, les rapports généraux qui sont publiés donc après chaque congrès. Le volume concernant Brisbane vient de paraître. Vous voyez qu'il faut du temps parce que ce n'est pas très facile. Hein, puis un volume de 1000 pages. Et j'espère que le volume concernant les Pays-Bas paraîtra plus rapidement. Voilà quelle est la situation. Pour ce qui est des thèmes, alors dans 35 thèmes, vous m'avez demandé quels étaient ceux qui avaient ma préférence. Je n'aurais pas le toupet de parler de préférence. Ce que je peux dire simplement, c'est que les thèmes correspondent aux grandes subdivisions du droit. Et je peux vous les indiquer ici. Il y a d'abord un certain nombre de thèmes qui portent sur l'histoire du droit et la philosophie du droit, c'est-à-dire des thèmes généraux concernant les données majeures d'un système juridique. Puis ensuite, un second groupe qui concernera les disciplines juridiques par spécialité. Alors il y a évidemment le droit privé, c'est-à-dire l'ensemble des droits qui concernent les relations entre les individus dans tous les pays du monde. Le droit public, c'est-à-dire le droit qui concerne les relations des individus avec l'État et le fonctionnement du système politique. Et puis ensuite, il y a des disciplines qui sont plus nouvelles, qui sont plus actuelles, telles que par exemple le droit de la sécurité, le droit de la protection humaine contre les divers dangers, et puis alors des techniques nouvelles du droit, et notamment l'importance prise par l'informatique dans le droit et qui est une. Il y a eu, comme vous l'avez vu sans doute dans le programme, il y a eu un certain nombre de sujets sur les relations de l'informatique avec le droit, non seulement comme méthode, mais comme système soumis à des règles juridiques différentes selon les pays du monde. Par conséquent, moi j'ai présidé une séance de travail sur le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes. Je vous dirai, si vous le souhaitez, ce à quoi ça correspondait. Mais d'autres sont occupés de problèmes de droit privé qui étaient très importants sur le droit de la famille, sur le droit des contrats, sur le droit commercial, sur le droit des relations avec les pays étrangers, et notamment le droit international et surtout, bien entendu, le droit des communautés régionales, c'est-à-dire principalement pour l'Europe, bien sûr, le droit communautaire, mais également le problème se pose pour des pays du Moyen-Orient, le problème se pose pour des pays d'Amérique, d'une façon générale, avec les différentes communautés qui réunissent les États-Unis aux pays d'Amérique du Sud, etc.
D'accord. En ce qui concerne le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes, on peut commencer par rappeler ce qu'est une autorité administrative indépendante. Et puis si ensuite vous pouvez nous présenter quels ont été les échanges à ce sujet lors du congrès.
Oui, vous avez raison. Le rapport général a été fait par une de mes collègues de la faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles. Un rapport très général, très complet, très important, très épais. Et qui montre que ce problème est devenu, dans le monde moderne, un problème tout à fait fondamental pour les États. La tradition ancienne des États faisait que le gouvernement et les services dépendants du gouvernement, éventuellement les collectivités territoriales, avaient l'intégralité des pouvoirs de droit public, c'est-à-dire de ceux qui permettent de régler les relations de l'État avec les particuliers ou les droits des particuliers à l'égard de l'État. Et puis, avec la diversification des fonctions de l'État, surtout depuis un demi-siècle, et la technicisation de ces fonctions, on s'est mis à considérer que l'État ne pouvait peut-être pas gérer directement ces questions et qu'il fallait qu'il y ait un intermédiaire entre lui et les particuliers qui ont une vision qu'on peut contester, qu'on peut considérer comme excessive. Et on est arrivé dans tous les pays, les Américains, les Anglais aussi, ont appelé ça QANGOS, Q-U-A-N-G-O-S, Quasi Autonomous Non-Governmental Organizations, c'est-à-dire des organismes indépendants du gouvernement placés sous son contrôle mais assez lointain, composés de représentants soit élus, soit désignés selon diverses méthodes de choix de compétences par le gouvernement et qui disposent dans une matière donnée qui est par exemple la concurrence, la santé publique, les relations du travail, qui disposent de pouvoirs que le gouvernement lui délègue. Ces pouvoirs sont nombreux. Ils sont un pouvoir de proposition, on proposera au gouvernement d'agir dans un tel sens. Ils sont un pouvoir d'avis, le gouvernement demande à cet organisme de lui donner un avis sur tel ou tel problème en matière de santé publique ou en matière de concurrence ou en matière financière, etc. Et puis également un pouvoir juridictionnel, il arrive que cet organisme ait un pouvoir, disons plutôt quasi-juridictionnel, qui leur permet de trancher des litiges et d'infliger des sanctions à ceux qui n'auraient pas correspondu aux règles. Mais puis, il y a alors le pouvoir qui est le plus important, mais qui est, Dieu merci, le moins répandu dans ce cas-là, qui est le pouvoir de réglementation. C'est-à-dire, l'État délègue en quelque sorte à ces organismes, des quasi-autonomous organizations, il leur délègue le pouvoir de prendre des décisions qu'en d'autres temps, il aurait pris lui-même. Dans le domaine de la santé, dans le domaine de la concurrence, dans le domaine de la gestion des banques, dans le domaine des droits du travail, etc. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a eu une sorte de contamination, en quelque sorte, entre les pays. Ils en avaient toujours eu, mais dans un domaine très réduit, finalement. Les organismes comme les chambres de commerce, par exemple, qui existent en France depuis la fin du XIXe siècle. Mais le phénomène s'est développé considérablement. D'abord, il y a eu une première poussée qui s'est produite au lendemain de la guerre, peut-être vers les années 50. Mais alors surtout, la seconde poussée, elle date d'années très récentes, qui sont 3-4 ans. On a vu naître, et en France notamment, alors une sorte de floraison d'organismes de tout genre avec des noms très pompeux quelquefois, comme par exemple cette haute autorité, c'est le mot qui est employé souvent maintenant en France, haute autorité qui s'occupe de la défense des personnes invalides. Voilà une haute autorité qui a été conférée à M. Schweitzer, qui était jusque-là président de Renault, et qui, après sa retraite, assure la présidence de cet organisme. Et on a créé, il y a 2 ans, une haute autorité de la santé, la HAS, Autorité de la Santé, en France, qui est chargée d'attirer à elle tous les problèmes concernant la santé. Non seulement elle est consultée par le gouvernement, mais elle peut prendre également des mesures de réglementation, elle peut même régler des conflits. Et c'est ce pouvoir de réglementation qu'il s'agissait d'étudier. Vous voyez, c'est un aspect très spécifique de ce problème des autorités administratives indépendantes. La situation de ces autorités est très ample, mais il y a ce problème-là qui est le plus difficile.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de l'émission.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet,
Canal Académie.
Nous retrouvons Roland Drago, le secrétaire général de l'Académie internationale de droit comparé. Alors, nous parlions des autorités administratives indépendantes et vous avez parlé de contamination entre les différents pays en ce qui concerne leur pouvoir réglementaire, donc quand elles peuvent produire du droit. Alors, qui a contaminé qui ? C'est peut-être une question simpliste.
Oui, c'est une question simpliste, vous avez raison, mais c'est en même temps une question majeure parce que je crois qu'il y a une sorte de contamination. Vous avez bien raison de parler, d'employer cette expression, parce que on est en présence d'une situation très bizarre. Quand Mme Thatcher a pris le pouvoir en Angleterre, elle voulait faire disparaître les Quangos. Ça lui paraissait une institution qui existait déjà, mais avec sa première formalisation. Et puis elle n'y est pas arrivée complètement, parce que pour Mme Thatcher, ça apparaissait comme étant un système de démembrement de l'État. C'est-à-dire que l'État s'abandonne, abandonne ses fonctions et s'abandonne lui-même au profit d'organismes dont il n'est pas sûr qu'ils soient indépendants, dont il n'est pas sûr qu'ils soient vraiment objectifs, et par conséquent, sous prétexte qu'ils sont soi-disant compétents dans la matière, médecins à la Haute Autorité de Santé par exemple, et pas seulement médecins, on a mis également des directeurs d'hôpital ou des représentants des métiers de santé, eh bien, on voit que l'État, dans sa tradition millénaire, que l'État se désencombre d'un certain nombre de compétences sous prétexte de leur spécialisation, sous prétexte de leur spécialité, de leur technicité, mais qu'en fait, à partir de ce moment-là, il n'assure plus le respect des principes qui sont ceux de son action, c'est-à-dire l'égalité entre tous les participants, et qu'il y a des risques. Il y a des risques. Je le vois avec cette haute autorité de santé créée il y a 2 ans. Elle a en principe réuni d'autres organisations, on a voulu simplifier. Il y avait déjà à l'époque toute une série d'organisations, mais beaucoup plus spécialisées, concernant soit l'admission des médicaments, soit la vente des médicaments, soit les conditions de santé, soit le fonctionnement des hôpitaux, etc. On a pensé les intégrer tous, et d'ailleurs on ne les a pas tous intégrés parce que la logique voulait que ça n'était pas possible, montrer que ça n'était pas possible, mais enfin on a intégré une grande partie. Et il continue à subsister à l'intérieur de cette autorité de santé. Et ça me paraît être quand même un organisme monstrueux avec beaucoup de fonctionnaires qui y travaillent, beaucoup d'agents. Il faut beaucoup de spécialistes. Est-ce qu'il y a des laboratoires suffisants qui peuvent procéder aux investigations, etc. Autrement dit, on voit qu'il y a en effet, et la vision de Mme Thatcher était pure, était vraie, un démembrement de l'État. Est-ce que ça n'est pas le rôle de l'État de régler ces problèmes? Alors, tant qu'il s'agit d'avis, tant qu'il s'agit de propositions, on peut peut-être l'admettre, mais quand il s'agit, et c'est pourquoi nous avions choisi ce sujet sur le pouvoir réglementaire, quand on leur donne un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire un pouvoir qui est dérivé de l'État et qui, jusque-là, appartenait à l'État et qui maintenant va appartenir à eux, on se dit qu'on se trouve en présence d'une situation qui comporte peut-être des dangers. Il est peut-être trop tôt pour porter des jugements de valeur sur des institutions de ce genre. On voit très bien les raisons pratiques pour lesquelles la plupart des pays du monde ont agi dans ce sens avec une sorte de frénésie extraordinaire, mais on se dit que on risque peut-être d'aboutir au minimum à une sorte de développement de la bureaucratie qui ne correspondrait pas aux idées initiales, et puis en même temps un fractionnement des fonctions de l'État, et même dans ses attributions les plus essentielles, comme par exemple la santé. La concurrence. Prenez le cas de la concurrence, c'est un exemple très typique et très caractéristique. La règle de la concurrence est dans le traité de Rome, elle continue à être dans le traité de Rome et dans les dispositions communautaires actuelles, et c'est effectivement, dans des pays qui pratiquent la liberté économique, une règle essentielle que d'assurer la concurrence entre les acteurs économiques. On a donc créé en France, peu après la guerre, un organisme qui n'était que consultatif et qui n'avait pas de pouvoir très important. Et puis alors, en 1986, le gouvernement Chirac de l'époque, le gouvernement qui a duré 2 années, 86-88, a créé le Conseil de la concurrence, un organisme qui est destiné à assurer la concurrence sur le plan national, dans les relations internationales et en conformité non seulement à la législation française qui a été modifiée à cette époque, mais surtout à la législation communautaire et notamment aux dispositions du traité de Rome qui contient et qui contient toujours un certain nombre de dispositions concernant la concurrence, les abus de concurrence, etc. Cet organisme est composé de membres désignés par le gouvernement qui représentent les milieux économiques et puis des juridictions diverses. Et il a un pouvoir très important qui est de condamner des pratiques anticoncurrentielles et de condamner ceux qui ne les ont pas respectées à des amendes extrêmement importantes. Il n'est pas une juridiction à proprement parler, mais il n'empêche qu'il vous condamnera une entreprise à des milliers ou à des millions d'euros au titre de la sanction pour non-respect des règles de la concurrence telles qu'elles résultent des dispositions du traité et de la législation française. Nous sommes en présence donc d'un système clos dans lequel les entreprises sont soumises aux règles de la concurrence. Elles payent des amendes, on peut parler d'amendes, des amendes d'économie. Eh bien, nous avons un système de ce genre qui existe partout. En France, ça n'est pas une juridiction. Et les gens qui veulent attaquer les décisions du Conseil de la concurrence vont devant la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel juridiction judiciaire de Paris. Mais en Angleterre, la situation est à peu près comparable. En revanche, dans les pays nordiques, ce sont des juridictions qui se prononcent dans ce cas-là, des juges et non pas un organisme de ce genre. Autrement dit, la comparaison était intéressante pour voir comment, à propos de ce pouvoir réglementaire dont je disais tout à l'heure qu'il était le plus important des pouvoirs que peuvent avoir ces organismes, comment on pouvait le réglementer, le comparer et voir comment on peut agir dans ce cas-là. En tout cas, ce qui est intéressant, et le débat a été très important, et je répète que le rapport général fait par cette collègue belge est très remarquable, consiste à savoir dans quelle mesure des organismes de ce genre peuvent proliférer à l'infini dans toutes sortes de domaines qui vont donc du domaine économique au domaine de la santé, qui vont du domaine de banquier au domaine financier en général, au domaine du commerce international, etc. Et comment l'État peut-il se désintéresser de fonctions de ce genre? Bien entendu, il les contrôle de diverses manières, notamment en désignant les membres quelquefois, d'autres fois ils sont élus. Il y a une diversité dans le régime, une diversité dans les fonctions qui peut satisfaire un juriste qui aime la subtilité, mais qui pour les utilisateurs provoque évidemment des difficultés. Il s'agissait donc de voir un peu comment la chose pouvait être réglée. Et le rapport dont je parle pourra peut-être trouver une porte de sortie.
L'étude des différents systèmes permet de repérer les bonnes pratiques, les bonnes idées, pour éventuellement s'en inspirer en France en ce qui nous concerne.
Oui, vous avez raison. Et en effet, le droit comparé a aussi cet avantage de permettre la comparaison. Je voyais par exemple qu'au congrès de Brisbane où je suis allé il y a 4 ans, dans l'état dans lequel se trouve Brisbane, qui est une des provinces de l'Australie, qui est la province, je ne me rappelle plus le nom, peu importe. Le code pénal était un code italien qui avait été introduit dans cette province australienne vers le milieu du XIXe siècle. Et c'était très intéressant de voir que finalement, on avait en Australie estimé que ce code italien en matière de droit pénal était acceptable. Et pour voir la situation inverse, nous avons en France un système en Alsace-Lorraine, en Alsace-Moselle, comme on dit maintenant, de gestion des problèmes immobiliers, qui est inspiré d'un système planificatif qui vient d'Australie et qui est très connu et qui a été transposé par l'Allemagne à l'époque où l'Alsace-Moselle faisait partie de l'Empire allemand et qui est resté actuellement au titre de la législation. C'est le système du livre foncier qui est très différent de celui qui existe dans le reste de la France. Or, le livre foncier d'origine australienne appliqué en Alsace-Moselle, on a peut-être demandé quelquefois de l'appliquer dans le reste de la France où il y a un régime des hypothèques tout à fait différent et on n'y est jamais parvenu. Voilà un exemple, n'est-ce pas ? Même chose à propos du système du médiateur. Il y a maintenant, actuellement, dans la plupart des pays, un médiateur qui est un homme, ou une femme bien entendu, relativement considéré, qui est chargé de régler librement et de façon très objective les litiges qui existent entre l'État ou les collectivités publiques et les particuliers. Ce système vient d'un système suédois qui a existé depuis le début du XIXe siècle, qui est le système de l'ombudsman, qui est un système très connu. On n'a pas eu de sujet sur cette question, mais ça mériterait de donner un sujet au prochain congrès. L'ombudsman a été créé donc au début du XIXe siècle en Suède et il permettait à n'importe quel particulier de se plaindre des actions de l'État devant cet homme qui était une sorte de juge un peu magistral. Et puis, à un certain moment, cette institution qui n'était pas connue ailleurs et qui faisait le particularisme de la Suède a été, grâce au droit comparé justement, connue à l'extérieur. Il y a eu alors à ce moment-là, comme pour les autorités publiques indépendantes, il y a eu une floraison d'ombudsman qui sont apparus partout, d'abord dans les pays scandinaves, puis en Angleterre, et puis même en France. Il y a une vingtaine d'années, on a mis en place le médiateur, vous avez dû entendre parler du médiateur, médiateur de la République, n'est-ce pas, qui publie chaque année un rapport, et qui est inspiré très directement de l'ombudsman. Il y en a maintenant partout, et même non seulement au niveau national, mais au niveau régional quelquefois, un personnage qui est considéré comme un homme d'indépendance, d'esprit, et qui est chargé de régler de façon empirique les litiges entre les particuliers. Voilà un effet de la comparaison. Cet ombudsman ignoré jusque vers les années 50, 60, et puis qui brusquement éclate dans tous les pays du monde avec des noms. Évidemment, dans les pays scandinaves, il a gardé ce même nom, mais ailleurs, il s'appelle médiateur en France, et puis avec d'autres noms en Espagne, en Italie, etc. C'est très curieux. L'effet du droit comparé. Alors, il ne faudrait pas croire que l'effet du droit comparé soit aussi général, parce qu'après tout, il y a beaucoup de réactions en sens contraire, mais vous avez encore un exemple qui est très caractéristique et qui concerne le droit civil, cette fois, qui concerne le droit des accidents, notamment des accidents de véhicules. Le problème des accidents de véhicules, surtout au moment où il est devenu très important, était régi, et il est toujours, par le code civil, c'est-à-dire qu'il faut une faute à la charge de celui qui a provoqué le dommage, qui a provoqué l'accident. On applique les dispositions célèbres du Code civil en cette matière, comme dans des domaines comparables. Et d'ailleurs, le droit comparé n'a jamais prétendu à vouloir jouer une influence de ce type. Il y avait des gens, au début, à ce fameux congrès de 1900 dont je parlais, qui voulaient que ce soit dans tous les pays du monde, étant donné leur niveau plus ou moins égal de développement, il y ait un droit unique. Mais ce système du droit unique a toujours été rejeté et je le comprends et je crois qu'on a raison de ne pas l'admettre.
Je vous propose de marquer une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de l'émission.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des Alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de français à l'étranger. avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Nous retrouvons Roland Drago, le secrétaire général de l'Académie internationale du droit comparé. Vous nous parlez de droit unique, de certains pays qui sont très fiers de leur droit et souhaitent le garder. Alors voilà ma dernière question. On a parlé d'une constitution européenne, on a voté avec le résultat que l'on connaît en France. En quoi le droit comparé permet-il de faire avancer le sujet de la constitution européenne ?
Eh bien, c'est une bonne question. On peut d'ailleurs la dédoubler. À l'infini, parce que il y a là un problème qui se pose et qui concerne le droit du Royaume-Uni. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, le droit du Royaume-Uni est un droit qui est principalement jurisprudentiel, et en tout cas, même si aujourd'hui il y a beaucoup de domaines en Angleterre de façon évidente qui se résultent de lois ou de règles prises par le gouvernement, il n'empêche que la common law, c'est-à-dire la loi résultant de la jurisprudence, l'emporte toujours sur une loi écrite. On est là dans une situation qui est très particulière et qui tient à ce système de common law qui donne la priorité, en quelque sorte, au juge sur le législateur. Or, le problème s'est trouvé modifié avec l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. À ce moment-là, il est bien certain que, compte tenu de ce qui trouver des règles qui se trouvaient dans le traité de Rome, les autorités publiques en Grande-Bretagne comme ailleurs devaient respecter les règles communautaires et les faire respecter dans leurs actes. Et on s'est trouvé en présence d'un système que les Anglais ont adapté de façon tout à fait parfaite. Ils sont à l'heure actuelle, bien sûr les choses peuvent changer d'un moment à l'autre, mais pour le moment, ils sont ceux qui appliquent le mieux le droit communautaire, alors que ce droit communautaire, donnant la supériorité aux règles communautaires sur les règles nationales, pouvait leur paraître non seulement étranger, mais même anormal, même à certains égards, même condamnable. Eh bien, ils ont au contraire, et ceci a été pour eux un moyen d'évoluer dans un sens plus moderne à propos de la common law, pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de hiérarchie des normes qui s'établissent et que les règles communautaires s'imposer aux autorités britanniques et même aux juges britanniques. Et les juges britanniques sont, j'exagère peut-être mais à peine, ceux qui appliquent le mieux les règles communautaires. Les juristes français ont mis longtemps à s'y mettre, mais maintenant ils sont extrêmement bien adaptés. Mais les Anglais, ils sont allés encore plus vite et ils ont, dès le moment où ils sont entrés dans la communauté, ils sont entrés dans le mécanisme juridique de la supériorité du droit communautaire dans les domaines précis. Alors, pour ce qui est de la Constitution européenne, vous savez, là, il y a un problème juridique important que personne n'a vu, parce que tout de suite, la question a été fondée sur des éléments démagogiques avec d'énormes bêtises qui ont été dites de part et d'autre et qui ne correspondaient pas à la réalité. La Constitution européenne comportait 4 parties. Et c'est peut-être une erreur sur le plan du volume d'avoir donné tous ces textes aux gens pour qu'ils votent. Mais de ces 4 parties, il n'y avait que la première, qui était la véritable constitution nouvelle, qui était importante. Les 3 autres étaient une déclaration des droits de l'homme, qui était inutile dans la mesure où il y a déjà eu, et il y a longtemps, la Convention européenne des droits de l'homme qui est appliquée par la juridiction qui est à Strasbourg, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Par conséquent, il était inutile, parce que les textes étaient quasiment semblables, de faire un texte sur les droits en Europe, puisqu'il existait déjà. Et à la fin, les 2 autres parties reprenaient tous les traités qui avaient été conclus depuis l'origine, c'est-à-dire le traité de Rome et les traités qui ont succédé, notamment le traité de Maastricht, et qui ont les intégrés simplement parce qu'on voulait faire un document unique. C'est un travail qu'un Parlement aurait pu réaliser, mais le faire soumettre au référendum était quelque chose d'absurde. En revanche, la première partie était la nouvelle Constitution, celle qui avait été préparée par la Commission européenne, enfin composée de membres de tous les pays, membres de l'Union européenne, présidée par M. Giscard d'Estaing, et qui a fait un travail très remarquable de synthèse et qui, lui, comprenait une quarantaine ou une cinquantaine d'articles. Et c'était le seul texte nouveau, vraiment. Et à partir de ce moment-là, si ce seul texte avait été soumis au vote, je pense qu'il aurait été adopté, les autres n'étant que des textes secondaires et déjà applicables de toute façon et qui, même s'ils n'ont pas été votés l'année dernière, continuent à s'appliquer parce que le traité de Rome s'applique comme s'appliquent les traités qui l'ont modifié.
Mais comment expliquez-vous qu'on ait décidé d'adjoindre ces textes secondaires au projet de constitution ?
Eh bien, vous avez raison, c'est une erreur majeure, non pas une erreur juridique, mais une erreur dans la vision de l'évolution de l'Europe. On aurait dû dire, on ne fait voter que sur la nouvelle constitution, le reste existe déjà. Alors, bien entendu, si on voulait raffiner, on pouvait dire que la déclaration des droits rajoutait quelques droits, mais très secondaires par rapport à la déclaration européenne datant, elle, de 40 ans, et que la reprise des traités anciens impliquait aussi quelques modifications qui avaient été introduites dans ces traités anciens pour être conformes à la première partie. Mais c'était tout à fait secondaire, et on aurait dû ne faire voter que sur le texte de la Constitution. Et alors, cette Constitution avait l'avantage majeur, et on tombe quand même dans le droit comparé sur ce point, elle avait l'avantage majeur d'augmenter les compétences des États à l'intérieur de l'Union européenne. Vous vous souvenez que quand on a parlé du vote à propos de l'Union européenne, à propos du texte, on a souvent dit les États ne sont plus rien, l'Europe est en train de tout submerger. Or, non seulement ça n'est pas vrai, que les États conservent une compétence importante dans beaucoup de domaines, et dans certains domaines de façon quasi intégrale. Et constitution prévoyait un moyen pour les parlements nationaux ou pour les gouvernements nationaux, et même quelquefois pour les particuliers, de faire des recours dans les hypothèses où une règle communautaire déborderait trop par rapport aux compétences étatiques. C'était, à mon avis, la chose la plus importante. Le reste, ce ministère des Affaires étrangères unique, etc., c'était des choses relativement secondaires, mais ce qui était, à mon avis, le plus important, c'était d'augmenter, par rapport à la situation actuelle qui demeure, les compétences des États et surtout les moyens de défendre ces compétences devant une juridiction qui pouvait être ou bien une juridiction nationale ou bien la Cour de justice des communautés qui siège à Luxembourg. Et ça n'a pas été vu, ça n'a peut-être pas été dit suffisamment. Je vous parais être donc quelqu'un qui était favorable à cette constitution. Et c'est vrai, parce qu'elle ne bouleversait rien, et au contraire, elle améliorait un certain nombre de points. Et c'est tout à fait dommage, parce que le rejet a eu un effet psychologique tout à fait déplaisant et tout à fait grave. Mais là, on sort du droit comparé pour parler de politique, c'est pas mon rôle.
Oui, je reviens à ma question initiale. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'adjoindre ces textes secondaires ? Est-ce que c'est quelque part parce que l'Union européenne a cette tradition de textes compliqués et qu'on n'a pas réussi à s'en dégager ?
Alors, c'est vrai que les textes sont compliqués et que si l'affaire avait été traitée par un Parlement, comme elle l'a été traitée dans certains pays, dans certains pays, c'est le Parlement et non pas le référendum qui a procédé au choix, les avantages technique aurait pu être plus défendue qu'on ne pouvait le faire devant l'opinion publique et une presse qui était évidemment ignorante sur ces questions de détail. C'est une erreur, mais ça, ce n'est pas une erreur juridique, c'est une erreur de fait, c'est une erreur tactique, c'est une erreur politique. Et au fond, on n'aurait pas dû agir de la sorte et en donner à chaque électeur un paquet considérable dont évidemment il ne voyait pas l'importance. Je pense que ça a été une erreur. Si on avait fait voter, je le répète, uniquement sur la Constitution, et on n'était pas obligé de faire voter sur le reste, sauf avec un juridisme très poussé, en disant, oui, il y a quand même l'article 55 du traité de temps dont une phrase a été modifiée, donc il faut que ce soit... Les parlements l'auraient fait sans problème. Le fait de le soumettre au référendum a obligé les gens à se prononcer sur des problèmes de principe, éventuellement même déformés par les adversaires.
Est-ce qu'il aurait fallu choisir entre la première partie soumise à un référendum ou l'ensemble du texte soumis au vote des parlements nationaux ?
Non, il y avait aussi la solution intermédiaire qui était de faire soumettre au référendum la première partie et le reste qui était purement technique au Parlement. C'est vrai, vous avez raison, oui.
Est-ce que le droit comparé a permis d'élaborer, selon vous, une constitution plutôt constructive, puisqu'on l'a vu, vous étiez favorable au projet de constitution?
Oui. Alors là, le droit comparé, il est certain que la commission présidée par M. Giscard d'Estaing comprenait des juristes et des hommes très spécialisés, très compétents de tous les pays membres de l'Union, et qui a eu des débats très importants, mais des débats qui ont réussi à trouver chaque fois des solutions. Et le texte, dans son ensemble, était un texte bien fait et tout à fait convenable pour la situation dont nous parlons. Parce que, voyez-vous, on a dit que l'Europe va devenir alors un État complètement fédéral. Et moi, je crois que c'est un système tout à fait nouveau, le système de l'Union européenne est un système qui n'est ni fédéral ni étatique, est un système que on n'a jamais connu. Jusque-là, les accords internationaux se faisaient sur le plan diplomatique et pas sur le plan institutionnel. Et on avait là, on était en présence d'un système qui avait déjà fonctionné quand même, il a quand même fonctionné depuis les années 50. Par conséquent, ça fait quand même une période longue et, à mon avis, on l'a amélioré. Et le droit comparé permettait de l'améliorer. Alors là, on pourrait prendre des détails, mais ça ne vaut peut-être pas la peine d'en parler, à propos de notamment des compétences. Les compétences du Parlement européen, les compétences de l'Union européenne, avec les textes qui étaient obligatoires, les textes qui se contentaient de poser des principes et dont les applications auraient été prises dans chaque État de façon différente selon son propre particularisme. Et puis des textes des troisième catégorie, les matières qui continuaient à relever des compétences des États. Il y avait là tout un système de répartition des compétences qui était un système intéressant. Or, la répartition des compétences est quand même une donnée juridique très importante dans tous les pays du monde, à quelque degré que ce soit. Et là, cette répartition était très bien faite, je trouve. Et par conséquent, il y avait des avantages, mais que seuls des juristes pouvaient apprécier. Et c'est sans doute une erreur de l'avoir soumis à l'ensemble du pays. Mais d'un autre côté, quand même, c'est l'avenir des pays européens. On comprend très bien qu'on ait soumis cette question au référendum. Mais alors, il fallait peut-être trouver deux textes. Un texte de principe soumis au référendum et le reste technique qui pouvait être réglé par le Parlement. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait agir. Pouvait-on le faire? C'est une question sur laquelle on ne reviendra jamais. Maintenant, on y revient.
Merci Roland Drago de nous avoir exposé tous ces éléments sur l'histoire de l'Académie internationale de droit comparé et sur le 17e congrès.
Merci à vous.